Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, il est champion du monde, il est fidèle au poste pour prendre soin de vous, pour vous informer avec beaucoup de pédagogie et surtout toujours dans la bonne humeur, c'est bien sûr le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à la dépression, la maladie psychiatrique, hein, pas simplement la petite déprime passagère qu'on est nombreux à ressentir en ce moment. Alors justement, comment faire la différence? Quels sont les symptômes qui doivent laisser penser qu'on est face à une vraie dépression et comment la traiter? Vous verrez, on parlera des antidépresseurs évidemment, mais la luminothérapie, elle aussi, est de plus en plus utilisée pour traiter les patients dépressifs. Pour parler de tout cela en plateau avec nous, notre invité, ce sera le docteur Pierre-Alexis Geoffroy. Il est psychiatre à l'hôpital Bichat à Paris, à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va parler de la fausse couche. Y a-t-il toujours des symptômes? Si saignement il y a, combien de temps cela peut-il durer? Autre question d'ailleurs, faut-il respecter un délai ou pas après cet accident pour envisager une nouvelle grossesse? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Et puis vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle va parler des problèmes sexuels rencontrés parfois dans le couple après l'arrivée d'un enfant.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par la question de Marianne.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'aurais une petite question de curiosité. Un ami m'a dit qu'il avait déjà eu des varices au niveau des testicules. Je me demandais si c'était vraiment possible et est-ce que c'est grave? Voilà, merci beaucoup, bon après-midi.
Merci Marianne, un ami intime probablement. Alors pour répondre à cette question, on a interrogé pour vous Marianne un spécialiste, c'est le docteur Ariel Toledano. Il est médecin vasculaire et phlébologue à Paris, on l'écoute.
Bah écoutez, en fait, il faut bien comprendre que des varices, on peut en avoir dans tout le corps et évidemment aussi dans les testicules. Donc ça forme ce qu'on appelle un varicocèle, c'est une dilatation des veines du cordon spermatique. Et souvent, c'est pas méchant, mais c'est par contre, ça peut être douloureux, ça peut entraîner un gonflement du testicule. En première intention, dans la majorité des cas, un petit traitement qui va agir sur le tonus des parois des veines peut vraiment soulager les crises. Et on peut se contenter pendant plusieurs années par ce traitement médicamenteux avant d'envisager un acte plus invasif. À ce moment-là, on peut être amené à les opérer, donc à ligaturer ces veines, ou proposer ce qu'on appelle des embolisations percutanées, une sorte d'occlusion de ces veines, pour justement supprimer ce reflux qui entraîne une lourdeur du testicule ou une pesanteur qui peut, au fur et à mesure, gêner le patient.
Voilà, c'était le docteur Toledano au micro de Benjamin Lévesque. Passons tout de suite à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois, elle est pour vous, Jimmy. C'est Étienne qui nous l'a posée sur notre répondeur. La voilà.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Qu'est-ce qui se passe donc quand on a un symptôme de carence donc en vitamine D? Donc j'ai souvent entendu parler dire qu'il était bon de faire une petite cure, surtout en hiver. Comment je peux savoir si je suis vraiment en manque de quelque chose ou non quand on arrive sur ces périodes-là donc de l'hiver quoi?
Jimmy, on parle beaucoup de vitamine D, plus cet hiver encore que les autres. On va peut-être comprendre pourquoi. Jimmy, on va répondre précisément à Étienne. D'abord, comment on sait si on est carencé en vitamine D?
Comme pour toutes les autres vitamines, vous ne pouvez absolument pas le savoir. Il faut faire une prise de sang pour doser la vitamine D. Et à une époque, ce dosage était remboursé par la Sécurité sociale.
Ce qui n'est plus le cas, je crois. Ouais.
Oui, parce que finalement, on faisait des dosages et tout le monde était carencé ou en déficit. Et le dosage coûte beaucoup plus cher que la petite ampoule. L'ampoule coûte quasiment rien, mais le dosage coûte quasiment 30 fois plus cher.
Ah oui.
Donc la Sécurité sociale a décidé de dérembourser ça, sauf dans certaines situations. La personne âgée qui est faire des chutes à répétition et donc qui a un risque de fracture, il faut qu'on s'assure qu'elle ait suffisamment de vitamine D. Même chose pour ceux qui vont être transplantés au niveau du rein. Bref, donc la seule façon de le savoir, c'est de faire une prise de sang, mais celle-ci n'est plus remboursée.
D'accord, mais si on insiste, effectivement, et qu'on la paye, on peut le faire. Jimmy, pour le coup, on sait, donc vous venez de le dire, que beaucoup de Français sont carencés. Est-ce qu'on sait d'ailleurs à quel point dans la population et quelles conséquences ça peut avoir sur la santé finalement?
Alors, ce serait 80% de la population française qui serait en déficit ou en carence de vitamine D. La vitamine D, c'est la seule vitamine qu'on ne peut pas avoir de façon intégrale dans l'alimentation, là, à travers du soleil. Et le confinement ne va absolument pas améliorer les choses, puisque même lorsque vous sortez, vous êtes masqué. Or, il faudrait être exposé durant 20 minutes tous les jours au soleil avec un tiers de la surface corporelle dehors.
Ah oui, donc au moins toute la face,
visage,
hein, déjà. Visage,
ouais. Décolleté, les bras, ce qui n'est pas le cas. Donc, nous allons être carencés, c'est une évidence. La vitamine D, elle a un rôle majeur dans la régulation du calcium et du phosphore. Ça permet une meilleure absorption au niveau intestinal. Et ce calcium et phosphore sert à la minéralisation de l'os pour avoir un os bien solide. Ça sert à la contraction musculaire, mais c'est un rôle aussi pour la vitamine D au niveau hormonal et dans le système immunitaire, notamment la réponse qu'on va faire après la rencontre d'un nouvel agent infectieux, une nouvelle bactérie, un nouveau parasite
le
ou
COVID,
un nouveau
par
virus,
exemple, ouais.
Comme celui du Covid, même si évidemment, on ne va pas régler les problèmes de Covid avec de la vitamine D.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de petites cures, comme l'évoque ce garçon, Étienne ? Comment il faut procéder ? Vous parliez d'une petite ampoule, mais ça peut se prendre en plusieurs, enfin, une qui va durer plusieurs mois ou par jour, hein, je crois.
Alors déjà, il faut dire que chez les personnes qui sont en situation d'obésité, on a besoin de 2 à 3 fois plus de vitamine D que les autres, puisqu'elle va être séquestrée, bloquée dans la graisse. Les personnes âgées en ont besoin beaucoup plus puisqu'ils l'absorbent moins bien. Donc c'est vraiment les gens prioritaires. Et puis ensuite, tout le monde peut en prendre, soit une ampoule que votre médecin vous donne, mais le problème de cette ampoule, c'est qu'elle va entraîner un pic très important dans le sang.
Une forte dose tout de suite.
Exactement,
quoi, hein, c'est ça.
Une méga dose de vitamine D, sauf que ça entraîne un pic et puis ça descend et donc vous n'avez pas un apport régulier continu. Pour les plus courageux, je vous invite à prendre régulièrement de la vitamine D, 4-5 gouttes tous les jours. Je crois que vous avez commencé,
je
Mélanie.
Je fais ça, effectivement.
Vous portez
depuis
mieux, d'ailleurs.
COVID.
Votre élocution est même meilleure,
j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est placebo, en tout cas, ça me fait du bien, je le sens.
Donc voilà, un apport régulier, car dans l'alimentation, vous en trouvez dans les poissons gras. L'huile de foie de morue, c'est la référence,
non.
C'est pas bon. Il paraît que ça a changé de goût,
oui.
Mais je ne goûterai pas. Le saumon, le hareng, le thon, ou même l'espadon, c'est pas mal.
Ah, super, merci beaucoup Jimmy pour ces conseils également culinaires. Voilà, si vous aussi, comme Étienne qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Pierre-Alexis Geoffroy, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors vous êtes psychiatre et médecin du sommeil à l'hôpital Bichat à l'APHP. Et donc avec vous, docteur, aujourd'hui on va parler de la dépression. Alors en général, hein, pas forcément en lien avec le contexte actuel, même si on en parlera aussi un petit peu. D'abord on va reprendre du début, la dépression, c'est quoi ? C'est une maladie du cerveau ? Qu'est-ce qui se passe peut-être physiologiquement ?
Alors absolument, c'est une maladie du cerveau. On sait qu'il y a certaines zones dans le cerveau qui sont touchées sur le plan anatomique, c'est-à-dire dans leur structure, mais aussi dans leur fonctionnement. On parle du thalamus, on parle de l'hippocampe, dont on connaît pour la fonction notamment sur la mémoire, la concentration, mais aussi les lobes frontaux, cortex préfrontal, cortex singulaire antérieur. Et donc ce sont des zones qui, on va dire, en quelque sorte, hypofonctionnent au cours d'une dépression et sont responsables d'une tristesse de l'humeur avec un ralentissement des pensées, des comportements, des troubles de ce qu'on appelle des fonctions instinctuelles. Et c'est par exemple le sommeil, l'alimentation, la sexualité et une grande fatigue.
Est-ce qu'on sait combien de Français souffrent de dépression ?
Oui. Alors, on sait à peu près, donc sur une année, la prévalence de la dépression, c'est 10%.
Ah oui, c'est énorme.
Voilà, chez les adultes, donc c'est quand même très élevé. Et si on parle de prévalence en vie entière, une personne sur 5 fera un jour dans sa vie une dépression.
Là encore, c'est très important. Hein. C'est une maladie fréquente, donc on peut dire
très
ça.
Fréquente.
Est-ce qu'il y en a autant dans les pays dits occidentaux ? Est-ce qu'il y en a partout d'ailleurs dans tous les pays du monde ? Ou c'est quelque chose qui est typique un peu de nos pays occidentalisés, industrialisés ?
Non, absolument. C'est une très bonne question qui revient souvent. C'est complètement indépendant de l'ethnie, de l'éducation. Et même, on va dire, dans les pays, malheureusement, où il y a plus de traumatismes, plus de pauvreté, ce sont des facteurs de risque d'expression de dépression.
Est-ce que les hommes sont plus touchés que les femmes ou est-ce que c'est plus ou moins équilibré ?
Plus les femmes que les hommes, on dit à peu près 2 femmes pour un homme.
Ouais, et ça s'explique ou c'est parce qu'elles consultent plus aussi peut-être que les hommes qui ont honte, je ne sais pas ?
Non, il y a peut-être un sous-diagnostic effectivement, il y a beaucoup d'hypothèses plutôt une prédisposition, on va dire physiologique effectivement chez la femme à présenter davantage de dépression.
Est-ce qu'on sait s'il y a une part héréditaire, si on a des dépressifs dans la famille, est-ce qu'on a un peu plus de risque d'en faire une que dans une famille où il n'y en a pas du tout ?
Oui, absolument. On parle de sur-risque. Alors, on souvent pense à la génétique. Il n'y a pas le gène de la dépression. On parle d'hérédité complexe, mêlant plusieurs vulnérabilités génétiques et des facteurs environnementaux, tels que le stress, les traumatismes dont on a déjà parlé. Lorsqu'on a un apparenté de premier degré, donc c'est-à-dire des parents, des frères ou des sœurs qui ont une dépression, on a 2 à 4 fois plus de risque de faire une dépression.
Mais ce n'est pas obligatoire non plus. Hein, c'est
absolument
ça,
pas. Il y a plein de facteurs aussi protecteurs et on n'en parle pas suffisamment contre la dépression, tels qu'une bonne éducation, un bon accompagnement, un environnement favorable.
Non, c'est important, donc il y a des facteurs protecteurs également.
Absolument.
Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plus touchée qu'une autre? Est-ce que c'est une maladie qu'on a plutôt jeune, plutôt dans l'âge plus mûr? Est-ce que d'ailleurs les enfants sont touchés également de ce même type de dépression?
Les enfants sont également touchés, et là ça touche tous les âges, avec des formes et des expressions des fois particulières, variables. La médiane est à peu près à 25 ans,
ah oui,
c'est quand même une
de l'adulte
pathologie
jeune, hein, quand même,
de l'adulte ouais. jeune, mais les sujets âgés également peuvent souffrir de dépression.
Un mot malgré tout sur la période actuelle, est-ce que vous craignez un boom, une explosion des dépressions avec le contexte Covid, la première puis la deuxième vague?
Alors, on entend beaucoup de choses en ce moment sur ça, effectivement. Il y a deux choses.
Il y a des psychiatres qui montent au créneau, on les entend, qui disent « on a une troisième vague ». Voilà, je ne sais pas ce que vous, en tout cas, pouvez dire de votre expérience.
Alors, de mon expérience et des études, alors, tout d'abord, il y a deux choses. Est-ce que le Covid en lui-même est un facteur de risque de troubles psychiatriques? La réponse, c'est oui. Et il y a une grande étude dans l'Lancet Psychiatrie qui vient de sortir, là, ce mois-ci, et qui montre globalement que suite au Covid, on a 5,8% de troubles psychiatriques à 3 mois suivant l'infection.
Ouais.
En comparaison, par exemple, à une grippe, on est à 3%. Donc, vous voyez, c'est un surrisque par rapport à une grippe, mais ce n'est pas non plus une explosion, peut-être. Donc, des fois, les chiffres aident à plus se représenter. Donc, c'est un réel surrisque. Et l'autre chose, c'est, lorsqu'on n'a pas eu le Covid, mais on parle en population générale, dans ce contexte de stress de Covid, effectivement, les chiffres de santé publique montrent qu'en novembre, on est à 20% de dépression par rapport à 10% en septembre. Donc voilà, donc ça, ce sont les premiers chiffres de santé publique. Il y a encore d'autres chiffres et d'autres données à voir. Mais effectivement, ce qu'on constate en pratique clinique, c'est que c'est quand même un facteur de stress important.
Et cette dépression, ce qu'on entend, c'est que ça touche un peu plus les jeunes que les plus âgés. Est-ce que ça aussi, on constate en pratique?
Alors, dans les données scientifiques que j'ai vues, pour l'instant, je n'ai pas vu de choses spécifiquement sur ça. Probablement que les jeunes, effectivement, sont des populations à risque, malheureusement, particulièrement éprouvées sur
et
le plan
social. Peut-être qu'elles ne peut-être qu'elles restent en souffrance chez
en
elles
plus,
de leur côté et qu'elles attendent que ça déborde, en quelque
absolument,
sorte.
Absolument, absolument.
Et la jeunesse, oui, parce que plus de facs, plus de... Donc c'est peut-être aussi une population qui a été plus impactée que les autres, hein, peut-être.
Absolument, mais je pense que voilà, c'est un facteur de stress qui est important et voilà, qui reste important et où il ne faut pas non plus avoir un discours complètement dramatique sur ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à mettre en place pour booster les capacités de résilience des individus.
Docteur Geoffroy, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est vous, docteur Pierre-Alexis Geoffroy. Vous êtes psychiatre et médecin du sommeil au GHU, groupe hospitalier universitaire psychiatrie neurosciences. Et on fait le point donc sur la dépression avec vous cet après-midi. À présent, on va passer au diagnostic de cette maladie. Est-ce qu'on la dépiste d'ailleurs? Est-ce qu'on la diagnostique assez tôt aujourd'hui? Ou est-ce qu'on regrette, comme beaucoup, dans beaucoup d'autres maladies, finalement, un retard encore au diagnostic?
Absolument. Malheureusement, il y a un retard, comme beaucoup de maladies. Mais je crois que la dépression souffre encore plus, va-t-on dire, de ce retard diagnostique, avec un patient sur deux qui ne sera jamais diagnostiqué. Donc,
jamais.
On ne parle même pas de retard.
Ah,
c'est,
oui.
On va passer complètement à
parce
côté.
Parce qu'ils ont honte, c'est tabou, parce que...
Pour plein de raisons, pour le système de soins, pour la stigmatisation, effectivement, pour pas mal de choses, parce qu'on ne connaît pas aussi. Hein, quand on connaît la maladie, lorsqu'on est informé, après cette émission en radio, il y a des gens qui vont reconnaître les symptômes de la maladie. Donc, il y a aussi une ignorance. Et lorsque la maladie s'installe, devient chronique et récurrente, là, on sait qu'il y a à peu près 8 ans de retard au diagnostic. Donc c'est quand même énorme et c'est bien au-dessus des autres maladies quand même.
Pour motiver ceux qui nous écoutent, qui se reconnaîtront peut-être, on est d'accord, plus on consulte tôt, plus on a de chances d'en guérir ou pas dans cette maladie aussi?
Absolument. Plus on consulte tôt, plus on est traité tôt et plus cette dépression va prendre fin rapidement.
Justement, pour vulgariser et donner des outils à des personnes qui auraient peut-être des gens déprimés dans leur entourage, quels sont les signes les plus fréquents, en tout cas ceux qui parlent le plus, pour évoquer une dépression?
Alors, une dépression s'installe dans le temps, donc il faut au moins 15 jours de symptômes, hein, c'est vraiment ça. On parle de troubles de l'humeur, donc cette tristesse qui va s'installer dans le temps et qui ne réagit plus à l'environnement. On est triste tout le temps, donc ça c'est un symptôme qui est important. Mmh. On a une fatigue qui prend souvent beaucoup de place, qui est envahissante. On a aussi un ralentissement dans tout ce qu'on fait, dans ses activités, avec une diminution de l'énergie. Cette énergie est une notion qui est très très importante. Et l'entourage et le sujet vont se rendre compte de ce qu'on appelle une rupture de fonctionnement. Le sujet ne fonctionne plus comme avant. Le sujet est différent par rapport à son fonctionnement habituel. Et ça, c'est quelque chose qui est observé par l'entourage.
Le sommeil aussi est perturbé, je crois, dans la dépression, peut-être dès le début, ça vous aide à nous le préciser. C'est un signe d'alerte, mais ça veut dire quoi, le sommeil perturbé? C'est des insomnies, c'est des réveils, c'est au contraire, on dort trop ou plus assez? C'est quoi, principalement?
Alors, effectivement, le sommeil, c'est aussi un des points d'appel, vraiment, dans la dépression. Ça fait partie même des critères diagnostiques, hein, de la dépression, ce sommeil. 80% ont une plainte du sommeil avant une dépression. Pour certains, ces plaintes du sommeil vont avoir lieu un an avant l'apparition de cette dépression. Donc, on a à la fois un signe annonciateur, un signe de crise finalement, mais peut-être aussi un facteur de risque d'évolution vers la dépression. Et au cours d'un épisode, 92% des patients ont des plaintes du sommeil. Et ces plaintes du sommeil, ça peut être de l'insomnie, effectivement, de début nuit, de milieu nuit, de fin nuit. Bon, souvent, le classique, c'est les réveils matinaux précoces. On a même une avance de certains stades de sommeil, comme le sommeil paradoxal. Et on peut avoir, à l'inverse, l'hypersomnie. Donc, on dort trop, on reste au lit et on est fatigué tout le temps.
Parfois, certains événements de la vie font qu'on va être triste, un deuil, un licenciement, ou même j'ai le souvenir d'avoir vu une dame qui a été sur son lieu de travail. Elle se rend compte que sa collègue est cas contact et donc elle doit rentrer chez elle. Elle rentre chez elle, elle trouve son mari à la maison avec une autre femme et donc elle consulte car elle est déprimée. Elle voulait absolument un traitement antidépresseur parce qu'elle ne dormait plus, ça faisait 24 heures simplement. Elle était triste, elle ne mangeait plus. Est-ce que dans ces cas-là, est-ce que ça suffit pour caractériser un épisode dépressif?
Effectivement, ça ne suffit pas parce que c'est une réaction finalement physiologique, un événement de stress qu'elle a vécu et qui est bien compréhensible. Donc la tristesse fait partie des émotions humaines tout à fait normales. Cela devient anormal et alertant lorsque cette tristesse finalement n'est plus une émotion mais une humeur, c'est-à-dire qu'elle s'installe dans le temps et qu'elle reste le sentiment prédominant avec en plus de cette tristesse, vraiment j'insiste sur cette énergie et ce ralentissement qui apparaissent.
Donc clairement les gens qui sont juste un peu nostalgiques du temps d'avant, qui sont un peu déprimés ou anxieux de la situation actuelle, c'est pas ça, c'est pas la dépression, on a bien compris la différence. Les patients dépressifs justement, aujourd'hui ils consultent d'eux-mêmes, est-ce que c'est souvent le plus souvent un proche qui dit allez va consulter, tu vas pas bien? Ils viennent de quelle façon?
Alors, c'est une très bonne question. Les patients viennent parfois d'eux-mêmes lorsque les symptômes s'aggravent, finalement, de la maladie, lorsque des idées suicidaires vont apparaître. Des fois, ce sont les proches, des fois, c'est même le travail qui s'inquiète parce que leur proche, effectivement, n'est plus comme avant et donc devient inquiétant pour les autres. Des fois, c'est par les médias. Et ça, il faut le dire, parce que dans les études, ça ressort. C'est-à-dire une information, et c'est aussi l'objet de ma présence aujourd'hui, hein, c'est de pouvoir informer et que cette maladie soit davantage connue. Et puis après, il y a d'autres biais aussi possibles.
Qui on voit justement quand on pense être déprimé? Le médecin traitant, un psychologue, un psychiatre? Souvent, les gens ne savent pas trop. Et même honte de voir un psychiatre en pensant qu'il y a une connotation de folie. Alors, c'est entièrement faux.
Alors souvent le psychiatre n'est pas la première personne qu'on va voir et d'ailleurs je ne sais pas si ça doit toujours être le psychiatre en première intention. Il faut savoir que 70% des dépressions sont traitées par le médecin généraliste
et
ça se passe très bien, donc je pense que c'est son médecin généraliste qui doit être le premier interlocuteur et le médecin généraliste sera en capacité évidemment d'orienter vers un spécialiste en cas de complications, de signes de gravité ou d'autres comorbidités psychiatriques.
Docteur Geoffroy, on va faire une courte pause, on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est le docteur Pierre-Alexis Geoffroy. Vous êtes psychiatre et médecin du sommeil à l'hôpital Bichat à la PHP. Et donc à présent, on va passer au traitement de la dépression. Alors forcément, qui dit traitement, enfin qui dit dépression plutôt, dit traitement médicamenteux et antidépresseur, non?
Et oui, plutôt oui. Quand on a vraiment ce qu'on appelle un épisode dépressif caractérisé, donc qui répond aux critères médicaux d'intensité modérée à sévère, le traitement c'est l'antidépresseur. Il y a plusieurs classes d'antidépresseurs. La seule situation où on peut faire appel à d'autres thérapies, notamment aux psychothérapies, c'est dans les cas des dépressions légères. Ces psychothérapies peuvent être associées aussi aux médicaments en cas de dépression modérée et sévère.
Je reste un tout petit peu encore sur les antidépresseurs. On est d'accord, ça fait partie quand même c'est un des freins à la consultation. Les gens ont très peur qu'on les mette sous antidépresseurs, non?
Je pense que vous avez raison. C'est un des freins à la consultation. Mais l'objet est d'abord de faire le diagnostic, d'expliquer, d'accompagner, de rassurer, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi sur les antidépresseurs.
Et souvent, les patients veulent à la place un anxiolytique ou un somnifère. Je suis stressé, donnez-moi un truc pour déstresser. J'ai du mal à dormir, donnez-moi un somnifère. Le traitement, il n'est pas là, même si parfois on en prescrit en attendant que ça fasse effet.
Bien sûr. Et finalement, il y a beaucoup moins d'effets secondaires avec les antidépresseurs qu'avec ces anxiolytiques ou ces somnifères qu'on va utiliser vraiment que dans les phases très très aiguë pour soulager vraiment en aigu le patient qui ne dort,
mais
plus, du
qui
tout,
dort plus du tout, il faut l'aider,
qui est très très anxieux avec des attaques de panique, où vraiment on va essayer de passer un cap aigu, mais très rapidement on cherchera à arrêter ces anxiolytiques et ces somnifères, parce que vous le savez, il y a un risque de dépendance, ce qui n'est pas le cas avec les antidépresseurs, et qui sont des traitements plutôt boosters justement, qui vont redonner au sujet la capacité à aller travailler et à ressentir du plaisir.
Par contre, il faut peut-être dire à nos patients, à ceux qui nous écoutent en tout cas, que les antidépresseurs, c'est pas magique, ça marche pas tout de suite. Hein. Par contre, il faut être un tout petit peu patient. Il y en a qui arrêtent justement parce qu'au bout d'une semaine, ils sentent aucun effet. Il faut attendre un peu.
Oui, on dit qu'il faut attendre environ 15 jours au moins pour commencer à ressentir les effets de ces antidépresseurs. Et surtout, continuer cet antidépresseur et l'arrêter au bout de 4 semaines s'il n'y a eu aucun effet lorsque l'antidépresseur a été prescrit à la bonne posologie.
On peut aussi céder de la luminothérapie. La lumière, ça marche dans la dépression ?
La lumière, ça marche, c'est efficace. Les études scientifiques montrent qu'il y a une taille d'effet qui est comparable aux antidépresseurs en première ligne du traitement de la dépression, et que la combinaison des deux, luminothérapie et antidépresseur, est supérieure à antidépresseur seul. Donc c'est une bonne stratégie antidépresseur de première ligne et qui en plus peut se combiner pour avoir davantage d'efficacité.
Comment ça agit sur le cerveau, sur la dépression du coup précisément ?
Alors, ça agit de différentes manières. Tout d'abord, il faut savoir que la renaissance un peu de cette luminothérapie vient des neurosciences. Il y a une quarantaine d'années, on s'est rendu compte que resynchroniser l'horloge biologique par la lumière avait un effet antidépresseur. Donc c'est un des premiers mécanismes d'action. Un autre mécanisme d'action est l'augmentation de la vigilance par la lumière. Il y a une action aussi sur l'homéostasie du sommeil, c'est la pression de sommeil. Et enfin, un dernier effet, il y a deux belles études l'année dernière et il y a 2 ans qui montrent finalement des trajets dans le cerveau direct entre la rétine et des centres de régulation des émotions, et donc avec des effets directs de la lumière sur les zones qui sont responsables de la dépression.
Bon, comment on fait ? Alors, on achète une lampe sur Internet ou en magasin, on fait ça tous les jours, combien de temps avant d'avoir un éventuel effet ?
Alors, c'est mieux d'avoir une prescription qui est médicale avec un psychiatre ou un médecin généraliste qui va accompagner le patient dans cette prescription, parce qu'il y a des contre-indications, on pourra aussi y revenir. Et la luminothérapie s'administre le matin, à heure fixe, pendant 30 minutes, avec des dispositifs qui ont ce qu'on appelle un marquage CE, qui est une sécurité, dit DM pour dispositifs médicaux. Et ces dispositifs sont en vente sur Internet ou en grande surface.
Quelles sont les contre-indications ? Vous disiez qu'il y en avait.
Alors les contre-indications, c'est surtout tout ce qui est pathologie, donc au niveau des yeux, donc tout ce qui touche la rétine et en particulier la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et l'autre pathologie qui est la cataracte, plus pour des raisons finalement où d'accès avec une cataracte, malheureusement la lumière ne va pas atteindre la rétine et donc il n'y aura pas d'efficacité de la luminothérapie.
Vous précisément, vous avez mené des travaux sur ce sujet de la luminothérapie chez les patients dépressifs, il y a eu de très bons résultats. Qu'est-ce que vous avez montré et comment vous l'avez pratiqué sur vos patients ? Ça se fait le matin, ils le faisaient à quel moment dans votre étude ?
Alors effectivement, ce qu'on montre, c'est que la luminothérapie donc, peut être faite le matin. Il y a des études qui montrent aussi que c'est efficace à mi-journée, notamment via ses effets sur les centres de régulation des émotions directes. Donc ça ne passe pas que par la resynchronisation des rythmes, qui est un effet qui est surtout présent le matin. Donc c'est tous les jours. Et ce qui est important de dire, c'est que cette luminothérapie, elle est évidemment efficace dans le trouble affectif saisonnier, c'est la dépression l'hiver, puisqu'on va donner de manière artificielle un signal d'été finalement à l'organisme. Mais cette luminothérapie est aussi efficace dans les dépressions dites non saisonnières. Et ça, c'est un point important à souligner.
Est-ce qu'on peut faire ça en prévention ? On sent un petit peu moins bien pour éviter la dépression ?
Pour nous tous en ce moment qui sentent un peu le spleen là.
Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a pas suffisamment d'études dans la dépression non saisonnière. Par contre, dans la dépression saisonnière, là, effectivement, lorsque la photopériode diminue, c'est-à-dire lorsque la durée des jours diminue, certains patients ressentent déjà les premiers symptômes de la dépression. Et chez eux, il est intéressant de donner la luminothérapie. Et on sait que là, ça va prévenir de manière efficace la survenue d'une dépression hivernale.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Geoffroy, pour toutes ces explications sur la dépression et ses traitements. Explications très claires. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Alors, il est temps à présent de passer à notre séquence, les mots du quotidien. Aujourd'hui, pour la lancer, cette séquence, on va commencer par écouter la question qui nous a été laissée par Christina, 34 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'écoute avec intérêt votre émission tous les jours. Et il me semble que vous n'avez jamais parlé de fausses couches. Vous pouvez m'expliquer un petit peu de quoi il s'agit par rapport au saignement? On saigne combien de temps après et combien de temps il faut attendre pour retomber enceinte? Mais merci beaucoup pour vos réponses.
Alors Jimmy, on va tout expliquer. D'abord, quels sont les symptômes d'une fausse couche? Est-ce qu'il y a d'ailleurs toujours, on pense que toutes les femmes qui en sont passées par là, on pense au saignement ou même toutes les femmes tout court, est-ce qu'il y a forcément un saignement ou pas?
Alors pas toujours. Le principal signe, c'est effectivement les saignements lors du premier trimestre, mais vous pouvez aussi avoir des douleurs abdominales. On peut aussi s'en rendre compte malheureusement de façon fortuite lors de l'échographie. On se rend compte que le fœtus ne fait pas une taille suffisamment grande par rapport au terme, et donc il n'a pas assez grandi. Donc on fait souvent des prises de sang pour vérifier que le taux d'hormones est suffisamment bon, ou encore que l'activité cardiaque s'est arrêtée au cours d'une échographie. Mais les deux points d'appel souvent qu'il faut retenir, c'est les douleurs abdominales et les saignements. Ce sont des signes que les femmes ne négligent jamais, qu'il ne faut pas négliger.
Justement, à la fois, une femme qui va saigner, ou un petit peu saigner, on va dire, en début de grossesse, ça ne veut pas dire forcément non plus qu'il y aura une fausse couche.
Non, évidemment, il y a d'autres causes. Et souvent, elles vont saigner. Parfois, il peut y avoir des petits spottings liés à la nidation, c'est-à-dire l'accrochage de l'œuf.
Et les femmes et donc, consultent en général, hein, quand ça arrive,
malgré
il faut.
Il peut y avoir d'autres causes, un petit hématome, un petit décollement placentaire qui peut donner des saignements et qui impose du coup une surveillance avec un repos. Elles ont un arrêt de travail. Et puis, lorsqu'on n'a pas fait de première échographie, on n'est pas sûr que l'embryon soit au bon endroit et qu'il n'y a pas un risque de grossesse extra-utérine. Donc évidemment, si vous avez des douleurs abdominales, des saignements, eh bien vous passez un coup de fil à votre gynécologue s'il est disponible, ou sinon vous allez aux urgences. N'ayez pas crainte d'engorger les urgences, elles servent à ça, en particulier lorsque vous êtes enceinte.
Alors en début de grossesse, parfois les femmes s'affolent aussi quand elles ont tout à coup les seins qui deviennent moins gonflés, parce qu'on a ça parfois en début de grossesse, tout d'un coup ça dégonfle, tout d'un coup on n'a plus de nausées. Est-ce que ça peut être un signe de fausse couche?
Alors oui, vous savez, c'est ce qu'on appelle les signes sympathiques de grossesse.
Ils n'ont rien de sympa.
Sympathiques sont liés au fait que vous avez la bêta-HCG, l'HCG, l'hormone qui double toutes les 48 heures. Donc plus vous avez d'hormones, plus vous avez des symptômes. Et c'est vrai que l'arrêt brutal de ces symptômes, si tout d'un coup vous n'avez plus du tout les seins tendus, plus de reflux, plus de nausées, et vous dites il y a quelque chose qui se passe, ça peut être un signe de fausse couche.
Bon, si vous êtes au sixième ou septième mois, c'est pas la même chose.
Même si on sait qu'après le premier trimestre, les nausées vont s'améliorer, on s'adapte à cette hormone. Donc c'est un des signes, mais ce n'est pas le seul. Et en tout cas, au moindre doute, il ne faut pas hésiter à en parler à la sage-femme.
Alors justement, si on est en tout début, parce que bon, aujourd'hui on s'intéresse surtout aux fausses couches précoces, hein, on le précise, mais si on saigne un peu, on fait une petite fausse couche, enfin on sent qu'il y a une fausse couche qui est partie, est-ce qu'il faut toujours consulter ou est-ce que ça peut passer tout seul finalement, malheureusement?
Oui, il faut toujours consulter, puisqu'à ce moment-là, on a une échographie pour vérifier qu'il y a bien, c'était bien une fausse couche.
Et bien expulser tout.
Tout est expulsé, parce que si jamais il y a de la rétention, il y a un risque d'infection secondaire. Donc, et en règle générale, les femmes consultent toujours.
Alors, ça aussi, ça intéresse les femmes. Est-ce qu'on connaît les causes des fausses couches?
Alors, c'est triste à dire, mais la nature est bien faite. Si jamais vous faites une fausse couche au premier trimestre, c'est lié au fait que l'embryon n'était probablement pas viable et qu'il y avait des anomalies génétiques et que le bébé, si jamais la grossesse suivait son terme, eh bien, n'est pas
problème,
viable et donc,
bien sûr.
Ou très gravement malade. Donc, c'est une forme de sélection pour éviter justement de poursuivre la grossesse. Et c'est quelque chose qui reste très fréquent. C'est 15% des grossesses qui vont aboutir à une fausse couche.
Vous n'avez rien fait forcément de mal, mais d'un
écoutez
c'est
bien. C'est la faute de personne.
C'est la faute de personne,
c'est la nature qui le veut tel quel. Et ce risque augmente avec l'âge. Il est de 12% quand vous avez 25 ans par cycle, et il passe à 50% lorsque vous avez 40 ans. Oui. Donc évidemment, ce risque augmente avec l'âge.
Dernière petite question pour répondre à Christina. Jimmy, au bout de combien de temps après une fausse couche, on peut espérer avoir à nouveau
dès
une grossesse?
Dès que vous vous sentez prête, dès que le projet de grossesse...
Il n'y a pas de délai à maintenir.
Ni un mois, ni deux mois. Au cours du cycle suivant, vous pouvez retourner enceinte. Ou vous pouvez prendre une contraception s'il vous faut une période.
Vous décidez de ne pas être prête non plus, bien sûr. Mais
c'est à vous d'en discuter, c'est à vous de le décider.
Très bien. Merci beaucoup, Dr Jimmy Mohamed, pour cet éclairage. La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et c'est Catherine Blanc qui fait son entrée dans cette émission. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on a reçu une question pour vous. Écoutez bien, c'est une question d'Olivia.
Bonjour Catherine, j'ai une petite question. Mon mari et moi, on a adopté un enfant il y a 2 ans et depuis, nos rapports conjugaux ne sont plus comme ils étaient avant. Est-ce normal? Pouvez-vous m'aider pour cette question? Merci.
Alors Catherine, l'arrivée d'un enfant d'ailleurs, qu'il soit adopté ou pas, ça chamboule la vie d'un couple, non? Jusqu'à même la sexualité parfois.
Oui, bien sûr. Parce que, alors, on l'a déjà dit 1000 fois, quand c'est son enfant, ben, on sait bien qu'il y a eu le temps de la grossesse, de l'accouchement, avec tous les désordres et les besoins de reprendre contact avec son corps. Dans ce cas-là, ça n'échappe pourtant pas à la règle. Non pas parce qu'il y a des désordres corporels, mais tout simplement parce que jusqu'à l'adoption de cet enfant, le lien du couple, c'était de fabriquer un enfant, qui ont connu les déconvenus, les impossibles, puis après tout le processus d'adoption. Donc, leur désir était déjà un désir porté par un projet qui était un projet d'enfant. Dès lors que l'enfant est là, Le désir flanche parce qu'il ne trouve plus son élan. Parce que, malheureusement, notre sexualité n'est pas toujours qu'une question d'excitation pour l'excitation pour la sexualité, mais une excitation portée par un projet, et là en l'occurrence, le projet d'un bébé. À cela s'ajoute évidemment ce que demande un enfant, c'est qui est un gouffre à énergie, et bien évidemment aussi toutes les culpabilités, les peurs de ne pas être des parents parfaits parce que pas les parents biologiques.
Comme tous les parents, mais ça c'est
et finalement, comme tous les parents. Mais le parent adoptant a toujours le sentiment d'être moins légitime, donc il en fait 15 fois plus. Et puis on a attendu cet enfant comme le Messie. Donc de fait, on met beaucoup de choses, encore plus de choses dans sa direction, ce qui fait qu'on se prive peut-être dans la relation de retrouver le lien ou de garder ce lien.
Et puis quand on est parent, quand on devient parent, on a l'impression que les priorités changent, le statut du couple évolue aussi. On passe de l'amant à celui de parent et donc forcément, bah, ça peut être un impact sur la libido.
Oui, parce qu'on a du mal à imaginer que des parents puissent avoir envie de faire l'amour. Comme si c'était finalement les amants qui font l'amour, les amants en projet de parentalité. Mais dès lors qu'on est des parents, nous-mêmes en tant qu'enfants, imaginer que nos parents font l'amour, c'est un truc
pas
très agréable.
On a forcément envie d'avoir. Là, vous avez réglé la question en 20 secondes.
Merci. Voilà.
C'est ça, donc ça explique c'est beaucoup de choses. Ouais.
Oui, parce qu'à partir du moment, et puis d'ailleurs, on le voit bien, il y a des couples qui disent « maman, papa, donc va voir papa, va voir maman », et puis on finit par appeler comme l'enfant, papa, maman, son partenaire.
Faut jamais faire ça, on est d'accord, non, oui. C'est interdit ça, Catherine.
D'une voix, nous nous levons pour nous opposer.
Non.
Autant vous faites ce que vous voulez toute la journée, mais non, on n'appelle pas son partenaire,
là, on est vraiment,
maman.
On a les côtes serrées, Jimmy,
ah, oui,
vous
là,
et
pour
moi,
une fois, là, oui,
interdit.
Vraiment.
Alors on est d'accord, on l'appelle ni maman, ni papa, ni bébé.
Le jour où on m'appelle maman,
ah oui, bébé.
Bon, bébé, c'est chaud, non ? Bébé,
c'est niais. Moi, je trouve ça niais, ouais. Mais c'est pas bien non plus.
Mais
alors.
Non, parce qu'on fait pas non plus l'amour avec son bébé.
Oui. Ah non, mais moi, j'ai jamais appelé bébé. Hein, mais
Oui, bah, moi non plus, je vous rassure. Mais d'accord, pas de petit surnom comme ça.
D'accord, mais maman, papa, on s'appelle pas comme ça. Ça tue l'amour, ça.
C'est compliqué, oui, c'est compliqué. Parce qu'alors après, on s'appellera papy, mamie. Alors vous imaginez, ça sera une catastrophe. Non, non, la sexualité, quand même, rappelons-le, peut suivre tranquillement son cours à des rythmes différents, certes, éventuellement, mais jusqu'au terme de sa vie. Donc essayons de nous éviter nos CV relationnels pour qu'on reste des amants dans la relation de couple. Et évidemment que ces petits noms que nous nous donnons peuvent à certains moments acter d'une désexualisation de l'autre évidente.
Alors justement, comment resexualiser cette relation entre Olivia pardon, et son conjoint qui viennent d'adopter, donc je rappelle, un petit enfant, un petit garçon précisément. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller pour terminer?
Alors, ne pas oublier que ce petit garçon n'est pas sa source d'amour, même si c'est un petit garçon. Il vient combler tous les manques. Pour autant, les manques ne sont pas dus à son partenaire. Donc il y a encore des tas de choses à s'envier l'un et l'autre. Va s'enrichir de l'un de l'autre et pas seulement cet enfant qui vient combler toute la frustration de la paternité ou de la maternité. Donc en fait, ce qui rompt l'élan, c'est penser que la sexualité était une source, c'était le moyen de s'enrichir de l'autre et que dès lors que le bébé était l'enrichissement et qu'il est trouvé ailleurs, il n'y a plus de possibilité. Donc il faut absolument trouver, ne pas oublier qu'un bébé s'adore beaucoup, ça prend beaucoup d'énergie, mais ça dort beaucoup. Et en profiter, peut-être pas pour faire l'amour si c'est pas le désir qui revient, mais au moins pour reconnaître ces corps, les câliner, les découvrir ou les redécouvrir dans leur géographie avec délicatesse pour que justement ce lien de tactile, ce lien de tendresse ne soit pas seulement celui donné à un bébé quand on lui donne le bain. Si merveilleux soit ce bébé, n'oublions pas les corps des adultes qui ont besoin aussi de câlins et de douceur.
Merci beaucoup Catherine pour cet éclairage. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Oh ben, aujourd'hui, on vous a pas préparé un canular, mais on va revenir sur les plus grands canulars de l'histoire. Ah, la bonne blague. Avec Orson Welles qui a fait croire qu'il y avait une invasion d'extraterrestres aux États-Unis. Pierre Dac qui s'est présenté à l'élection présidentielle en 1965. Et vous, Mathieu, vous avez choisi un auteur de canular très moderne.
Ah, très moderne et surtout plus que moderne, il est encore vivant. François Damiens,
ah, oui,
le fameux
vrai,
François Lambrouille, dont les petites vidéos peuvent nous régaler en ces temps confinés.
Très bien, bah écoutez, c'est un très joli programme. On sera à l'écoute, bien évidemment, avec le docteur Jimmy Mohamed, mais vous aussi, restez sur Europe 1.